qui nous fera voir le bonheur. Un cycle de conférences les dimanches de carême 2022 à la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise. Avec Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, et Mgr François Bousquet, professeur honoraire de l'Institut catholique de Paris. Cette quatrième conférence, enregistrée le 3 avril 2022, s'intitule « Le bonheur, une question de vie ou de mort ?»
Bonsoir à tous et à toutes.
Mgr François Bousquet.
Le thème de nos conférences de carême, c'est le bonheur. Qui nous fera voir le bonheur ? Nous sommes d'abord revenus, lors de la première conférence, sur la question du sens de la vie. À la fin, la vie a-t-elle un sens ? La pandémie qui nous a frappés depuis 2 ans a ravivé beaucoup d'inquiétudes existentielles, en même temps que le confinement donnait l'occasion et le temps nécessaire à la méditation. Dans la deuxième conférence, nous nous sommes risqués à aborder de front le scandale du mal, en portant attention simultanément à la manière dont les croyants, à l'écoute de la parole de Dieu, réagissent. Tout naturellement, la troisième conférence, comme il convenait en ce temps de carême, a traité du combat spirituel. La présente conférence, la quatrième, va se demander comment le bonheur est question de vie ou de mort, en envisageant la mort qui ne peut être séparée pour des croyants d'une réflexion sur la résurrection. Ce n'est pas seulement en raison du moment que nous vivons que nous abordons ce thème. La pandémie, en effet, a réactivé le souci de la mort, bien plus la peur de la mort, surtout quand elle frappait des proches, ce que les périodes de divertissement avaient estompé. On voit bien comment la culture contemporaine, à travers la publicité par exemple, s'efforce de nous faire oublier le vieillissement et la mort. Et comment les tentatives actuelles de réaliser, entre guillemets, l'homme augmenté, poursuivent l'utopie d'une longévité qui veut ignorer nos limites. Mais pour quel bénéfice réel et à quel prix ? C'est bien parce que le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur est au cœur de la foi, dans le combat où se joue notre propre existence de baptisé, appelé à devenir témoin de l'espérance dans le monde de ce temps que nous abordons ce thème. Gardant la même méthode de parler à deux voix, en un premier moment, nous regarderons la mort en face. Le second moment sera consacré à la résurrection. Et en un dernier moment, nous en tirerons les conséquences. Croire au ressuscité, qu'est-ce que cela change ? Ainsi donc, premier moment, envisager la mort en face. Vouloir regarder la mort en face, c'est d'abord réfléchir à un premier point, à savoir que la mort est culturellement et religieusement situé. Puis nous pourrons, avec la distance qui permet de ne pas en rester à l'aphasie ou à la sidération qui sont les nôtres quand la mort frappe au plus près de nous, nous pourrons faire porter notre attention sur la mort vécue, si l'on peut dire, sur le ressenti. Cela nous fera distinguer la mort biologique et la mort qu'il faut craindre, comme dit Jésus, celle qui empêche la vie avec Dieu. Enfin, en écoutant saint Paul, nous verrons comment pour lui le baptême, ou plutôt la condition de baptiser, inverse notre perception première. Baptisés, nous n'allons plus de la vie à la mort, mais de la mort à la vie. Ainsi, premier point, la mort culturellement et religieusement située. Le comportement envers la mort marque la sortie de l'animalité et signale la première différenciation de l'être humain comme être spirituel. L'animal s'écarte du corps de son congénère qui est mort et passe son chemin. Mais les paléontologues, quand ils veulent savoir si les restes qu'ils examinent sont ceux d'un animal ou au contraire d'un hominidé, ils regardent, et c'est émouvant, s'il y a avec les ossements des traces de pollen. Si oui, l'humanité vient d'apparaître, car sur le corps ont été déposées des fleurs, humble témoignage de la croyance que le voyage ne s'arrête pas là. D'où on peut en déduire aussi que le jour où à la Toussaint on cessera de fleurir les tombes, c'est que ce sera la fin du monde, avec ce sentiment qu'il n'y a que le néant. Nous devons prendre conscience aussi que ce qui entoure la mort et les rituels qui l'accompagnent sont d'une grande diversité, d'une culture à l'autre, mais aussi d'une époque à l'autre, à l'intérieur d'une même culture. L'être humain comme être spirituel est d'une telle richesse que ce qu'il exprime se déploie avec une grande et belle diversité au-delà des constantes dans les croyances. Notre diocèse, avec la diversité de ses populations, pourrait représenter un monde à lui tout seul. En fréquentant nos voisins, nous gagnons à connaître leurs coutumes d'origine. En islam, par exemple, l'enterrement se fait très rapidement, souvent dans la journée même de la mort. Et c'est dû en partie aux contraintes d'un climat très chaud, où il ne faut pas attendre. Au Québec autrefois, au contraire, puisque j'ai connu le Québec, on attendait le dégel à la fin de l'hiver pour pouvoir creuser la terre. Mais les plus grandes variations sont symboliques. En Inde, c'est le fils aîné qui doit frapper le crâne de son parent pour que l'âme rejoigne le ciel et surtout le dieu du feu, Agni. La crémation étant le rite habituel si l'on habite loin du Gange. La coutume de la crémation qui arrive chez nous prend sa source dans la coutume romaine, elle-même indo-européenne. En Asie, Asie indienne ou Asie chinoise, il y a de grandes variations. En Chine, la Chine fascinée par la longévité, les rites semblent vouloir prolonger la vie du défunt. Je l'ai vu moi-même. C'est-à-dire, on fait des offrandes avec ce qu'il aimait, paquets de cigarettes ou bière entamée, et on brûle des simili billets de banque. Dans l'Asie indienne, l'Asie du Sud-Est, c'est la croyance en la transmigration des âmes qui commande les rituels. Dans les cultures traditionnelles africaines, où la valeur sacrée fondamentale est la vie, les rites sont assez longs et complexes. Mais l'essentiel est que le mort parvienne au pays des ancêtres sans en revenir. À Madagascar est pratiqué au bout d'un an un rite de retournement des morts, c'est-à-dire de leurs ossements, qui rassemble toute la famille ou le clan, occasionnant de lourdes dépenses. Chez nous, c'est d'une époque à l'autre que se font sentir les variations, comme l'ont montré les études de Philippe Ariès, La mort en Occident. Au XVIIe siècle, la mort est publique, dans la mesure où celui qui va mourir réunit dans sa maison enfants et petits-enfants pour leur laisser en précieux héritage ses dernières paroles. D'ailleurs, alors qu'aujourd'hui il nous arrive de penser que c'est la mort subite, sans se voir partir, qui est préférable, dès la période médiévale, comme on peut le voir dans les litanies de protection, vous savez, apeste, bello et fame, liberanus domine, libère-nous, Seigneur, de la peste, c'est-à-dire de l'épidémie, de la guerre et de la faim. On ajoutait, a subitanea et improvisa morte, liberanus domine, de la mort subite et imprévue, libère-nous, Seigneur. Mourir, c'est pas si grave, mais mourir sans s'être confessé, ça risquerait là d'être grave. Aujourd'hui, on ne meurt plus à la maison, et comme l'écrit Philippe Ariès, la dimension publique est réduite au passage d'un fourgon anonyme dans le trafic. À présent, donc, la mort vécue, notre ressenti, où il faut distinguer la mort biologique et la mort qui empêcherait la vie en Dieu. Donc, tout en étant conscient de ces différences selon les époques et les cultures, cela n'enlève pourtant rien au ressenti. L'un ou l'autre philosophe de l'Antiquité se laissait aller à dire que la mort n'est rien pour nous puisque nous sommes morts au moment où nous la vivons, entre guillemets. Mais c'est un sophisme, car d'une part demeure l'angoisse quand nous voyons la mort s'annoncer pour nous, et d'autre part, la mort peut-être la plus ressentie est la mort de l'autre qui nous est proche. C'est toujours un choc, même pour une mort prévue et attendue. Les pleurs des petits-enfants lors des obsèques de leur grand-père ou de leur grand-mère sont quelque chose de terriblement émouvant. Jésus lui-même a vécu ce déchirement. Après la mort de son ami Lazare, Jésus pleura, est-il écrit. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Quand la mort est perçue comme faisant partie du processus naturel des cycles de la vie, le vécu est moins dramatique. Rassasié de jour, il fut réuni à ses pères, comme dit la sagesse. La suite des saisons, la succession des générations renvoie à notre condition ordinaire, issue de l'animalité, quand bien même elle la transcende. La mort biologique est un élément de notre appartenance à la terre, notre corps d'origine. Si bien que le plus difficile est plutôt le vieillissement, l'affaiblissement de nos facultés et des forces dont nous disposons. Les cultures occidentales contemporaines étant devenues excessivement individualistes, la mort de l'individu semble la mort de tout. Cela fait oublier une pensée encourageante d'un théologien au XIIIe siècle comme saint Thomas d'Aquin. Ce dernier explique que Dieu a disposé deux bienfaits pour orienter l'être humain vers l'éternité. D'une part, la succession des générations, d'autre part, le don qu'il lui a fait de la raison et des mains afin de pouvoir inventer à l'infini des solutions aux problèmes que la vie et le monde lui poseraient. Pour que la succession des générations soit pleinement vécue comme chemin d'éternité, il convient d'accepter d'être un ou une parmi d'autres, non seulement dans l'espace mais dans le temps, et sans doute d'apprendre à vivre le vieillissement, bien la première enfance, comme des saisons où nous avons encore plus besoin les uns des autres. Avec cette sagesse qui sait que toutes les saisons sont belles, à condition de ne pas les vivre en rêvant des autres. Le rêve de longévité sans mesure est une tentation que ne peuvent avoir que ceux qui pensent leur vie comme celle d'individus solitaires. Mais alors, quoi faire de cette prolongation? Est-ce que c'est cela, l'humanité augmentée? En revanche, on voit bien ce cas de scandaleux, la mort imprévue ou anticipée, ou simplement sans signification, quand elle arrive sur des destins qui non seulement vont en souffrir, mais resteront inaccomplis ou brisés, que ce soit par un accident stupide. Y a-t-il des accidents qui ne soient pas stupides quand on aurait pu les éviter? Par maladie, tandis que la médecine, qui a fait des progrès prodigieux, reste encore trop souvent impuissante, ou encore par suite de guerres qui ravagent des pays entiers. On comprend l'émotion que soulèvent les images qui nous parviennent quotidiennement de la guerre d'Ukraine. Les débats sur la fin de vie sont aujourd'hui très aigus et la complexité des situations fait que les jugements ne sont pas faciles à éclairer. L'interdiction de donner la mort est un repère absolu. Et face à la souffrance, les soins palliatifs sont indispensables. Mais comment évalue-t-on ce qui est digne ou indigne dans la mort lorsque l'on réclame la dignité pour la fin de la vie? Avec les problèmes de la fin de vie, on est aux frontières aussi de la question du suicide qu'aucune réflexion ne peut éviter. La décision de la mort volontaire est toujours un drame, non seulement pour la personne qui pense n'avoir plus de raison de vivre, mais pour les proches et l'entourage, car ils ne pourront s'empêcher de se demander avec angoisse ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils n'ont pas su faire, comment les choses auraient pu tourner autrement. Au fond, la mort concentre les enjeux de la vie, oblige à réfléchir aux fondamentaux, c'est-à-dire à nos raisons de vivre, et c'est toujours très concret, au creux même de la réalité physique, mais aussi des relations interpersonnelles. C'est pourquoi une dernière remarque n'est peut-être pas inutile pour nous rendre attentifs aujourd'hui, à cause des moyens de communication qui sont les nôtres. Nous devons, en particulier pour ce qui concerne la mort, si souvent représentée comme la violence d'ailleurs, rester vigilants sur la frontière entre le virtuel et le réel. Il y a des représentations de la mort, pas seulement dans les films d'horreur, mais aussi dans les jeux vidéo, qui risquent de faire perdre le sentiment de l'intensité dramatique de la mort dans la réalité. La mort de l'autre n'est pas un jeu. Dernier point, vie et mort selon la parole de Dieu, saint Paul. Un bref passage dans les écrits de Paul nous permettra de rassembler notre propos sur la mort quand nous voyons l'ampleur des questions qu'elle soulève. Paul se rapporte à la mort de quatre façons. Il parle de la mort de croyants, de la mort de Jésus et de ses conséquences pour nous, de la mort en relation avec le péché, de la mort enfin, comme puissance ennemie de Dieu. Il se préoccupe d'abord de la mort des croyants, parce que celle-ci surprend la première génération de chrétiens. Comment se fait-il que la mort garde son emprise après la résurrection du Christ ? Paul insiste alors sur le fait que la mort physique ne signifie pas une défaite dans le combat, car pas même la mort ne peut écarter la protection de Dieu. Citons Romains 8, 38, « Ni la mort, ni la vie, etc. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Ce n'est pas que la mort ne demeure pas une épreuve. Paul se réfère au risque de sa propre mort comme le résultat des tribulations ou de la persécution, même s'il lui arrive d'envisager cette mort comme l'occasion, dit-il, de s'en aller, d'être avec le Christ. En second lieu, saint Paul place au centre de sa prédication la mort du Christ crucifié, reprenant par là la tradition la plus ancienne de la foi. La réalité de la résurrection est liée à la réalité de la mort de Jésus. Fondamentalement, la croix dissipe l'illusion que l'homme puisse se sauver par lui-même, mais aussi elle est confrontation entre Dieu créateur et Père, le Dieu des vivants, et ce qui dans le monde mène à la mort. Nous y reviendrons en parlant de la résurrection. À travers la mort de Jésus, les croyants peuvent considérer en face leur propre mort au lieu de la craindre et de la fuir. Quand Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort, cela ne veut pas dire que la mort est le châtiment du pécheur, comme si Dieu aimait la mort et s'en servait. Cela renvoie plutôt à ce qui d'ailleurs s'est vérifié dans la mort du Christ, à savoir que le péché, le réseau multiple et dérisoire de nos lâchetés, de l'orgueil, de l'envie, de toutes nos démissions, finit par mener à la destruction de la vie et de ses possibilités et conduit à la mise à mort de l'innocent. Il nous faut donc insister en troisième lieu sur cette relation de la mort au péché chez saint Paul, en particulier dans la première moitié de l'Épître aux Romains. Dans le parallèle entre Adam et le Christ, la mort est mise en relation avec le péché, mais aussi avec la loi. La loi, certes, donne conscience du péché, mais son observance matérielle ne saurait suffire à procurer le salut, car l'essentiel est la grâce, le don que Dieu fait de sa grâce partagée et de vivre selon cette grâce d'une manière qui lui répond et lui correspond, ce dont nous allons parler dans un instant, car il s'agit de l'existence baptismale. Enfin, quatrième et dernier aspect, la mort apparaît vraiment chez saint Paul comme la puissance ennemie de Dieu, le Dieu vivant, et la dernière à être détruite, ce qui invite à ne pas en parler trop vite, ni comme si elle avait quelque part à ce que Dieu est. Où saint Paul est le plus éclairant, c'est dans le renversement dont il fait la marque du baptême. Le chrétien ne va pas de la vie à la mort, mais de la mort à la vie. Le vocabulaire de la naissance appliqué à la vie nouvelle est typiquement johannique de l'évangile de Jean. Les références sont multiples. En revanche, chez Paul, le vocabulaire de la naissance est ordinaire. Il insiste sur la lignée, la postérité, la descendance d'Abraham ou de David, ou encore il veut marquer le réalisme de l'incarnation. Mais c'est dans sa réflexion sur le baptême que nous trouvons l'articulation entre mort et résurrection qui va nous introduire directement au second moment de cette conférence sur la résurrection. Je cite Romains 6, 4, 5. « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. » Au fond, la mort du Christ en croix supprime tout ce qui a trait au péché, le péché qui conduit à la mort, non seulement la mort physique, mais l'absence de la vie de Dieu, de la vie éternelle. Paul y ajoute l'idée que l'on est baptisé non pas seulement au nom de Jésus, mais dans sa mort. De fait, le rituel chrétien du baptême qui fait plonger celui qui est baptisé, comme le dit le mot baptisme à plongeon, évoque la mémoire de l'Exode. Vivre en baptisé, c'est sortir d'une terre d'esclavage, traverser la mer, c'est-à-dire l'épreuve de l'existence, et ressurgir sur l'autre rive pour marcher sous la conduite de Dieu vers la terre promise. À cette mémoire d'Exode, Paul ajoute celle de la Pâque du Christ, plongée dans la mort et ressuscité par le Père. Tel est l'apport de saint Paul à la méditation des premières générations chrétiennes. Comme le redira l'Épître aux Colossiens, ensevelis avec lui dans le baptême, avec lui encore vous avez été ressuscité, puisque vous avez cru à la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ainsi, l'espérance n'est pas illusoire, mais bien fondée, qui remet tout dans le bon sens, aller non pas de la vie à la mort, mais de la mort à la vie, grâce au souffle, à l'esprit du ressuscité, qui est donné en partage à ceux qui le suivent.
Thank you. Après cette méditation sur la mort que vient de nous faire François Bousquet, il avait annoncé, évoqué en une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, la résurrection.
Monseigneur Stanislas Lalanne.
Et tout d'abord, peut-être la nouveauté de la résurrection et ce qu'elle n'est pas. Je crois que pour une meilleure compréhension de la résurrection, il faut d'abord comme déblayer des approches qui ne mènent à rien ou qui induisent en erreur. Ou dit autrement, la résurrection n'est pas une réanimation de la chair. Un enfant demandait un jour « Est-ce que Lazare, il est remort ?» Le mot est joli et la réponse est oui. Quand Jésus, avant sa mort, ramène à la vie Lazare ou le fils de la veuve de Naïm, ce n'est pas du même ordre que sa propre résurrection, bien sûr. Il s'agit alors que lui-même, qui va être crucifié, il s'agit de signifier que son Père lui a fait partager sa puissance de donner la vie. Mais il faudra que la mort sur la croix ait réellement eu lieu pour que, après la Pâque de Jésus, tout homme puisse bénéficier du don que Dieu fait en renversant ainsi définitivement la mort, en pardonnant aussi et en invitant à vivre de son esprit, de son amour qu'il a montré en Jésus. Saint Paul a eu beaucoup de difficultés, on évoquait Saint Paul tout à l'heure, a eu beaucoup de difficultés à expliquer aux Athéniens réunis sur l'Agora qu'il ne s'agissait pas seulement de l'immortalité de l'âme. À l'époque, on l'aurait cru facilement car c'était le concept disponible dans la culture grecque. Il y avait le monde de la chair et des corps, c'est-à-dire le monde de la corruption, ce qui peut inspirer l'horreur. Et il y a le monde de l'âme qui bénéficie de l'immortalité propre à l'esprit. Et Paul doit d'abord dissiper une confusion, car ses auditeurs étaient à l'affût de nouvelles divinités orientales, et ils se méprennent lorsque Paul parle d'anastasie, c'est le mot grec qui signifie « relèvement ». Mais dès que Paul parle de résurrection du corps et non pas seulement d'immortalité de l'âme, ses auditeurs s'en vont en riant et en ricanant. « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois » dans les Actes des Apôtres. Il faudra des siècles d'évangélisation de cette belle culture grecque jusque dans ses fondations pour que le concept lui devienne disponible. Aujourd'hui encore, dans les mentalités, Dieu est plus grand comme esprit ou comme verbe que comme verbe incarné. Et l'idée que l'accès à Dieu passe par le corps de Jésus demande encore à être apprivoisée, vous le savez bien. En somme, la résurrection de Jésus n'est pas une simple continuation, mais une véritable nouveauté, l'ouverture à une autre dimension. Et si elle arrive dans le temps, dans notre propre histoire, il y a là infiniment plus que notre histoire. Pourquoi les évangiles ont-ils privilégié, parmi d'autres, par exemple, celui du réveil, le langage de la résurrection? C'est que ce mot arrive à dire plusieurs choses à la fois. Il y a le préfixe « re », ouais, qui signifie « nouveau », et « surrection », qui dit l'acte de se mettre debout, de se relever. Ça permet d'exprimer pour nous, qui ne pouvons pas penser les choses qu'à l'intérieur de l'espace et du temps, le continu et le discontinu dans la résurrection. Et cela permet de mettre en valeur le fait que c'est bien Jésus transfiguré, mais qu'il se produit du neuf pour lui, mais aussi pour nous. Il s'agit toujours bien et encore de l'humanité, la sienne et la nôtre, mais relevée par l'action de Dieu. Le préfixe « re » montre qu'il y a avant et après la mort, et « surrection » montre le passage de bas en haut pour l'homme créé, pour être à la fin debout, libre, guéri et vivant, les yeux tournés vers le ciel et l'horizon. Oui, ce que la résurrection est et ce qu'elle n'est pas. Dans un deuxième temps que j'ai intitulé « Ressusciter et ressusciter pour nous ». Car si Jésus est ressuscité pour lui-même, c'est aussi pour nous qu'il est ressuscité. Nous le verrons plus en détail au troisième moment, en nous demandant ce que ça change que de croire au ressuscité. Mais dès à présent, nous pouvons déployer quelques conséquences de cet événement. Ces conséquences, pour Jésus, sont doubles. D'abord, sa manière de vivre et de mourir, qui, aux yeux des hommes, a mené à un échec, est manifestée comme le chemin qui mène à la vie sans fin. Et elle est confirmée comme le signe de l'amour de Dieu et non d'une malédiction. Et par ailleurs, mais la première génération chrétienne devra prendre le temps de le réaliser et de trouver les mots pour le dire, c'est à partir de la résurrection que l'on pourra reconnaître en Jésus le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur, le visage humain de Dieu lui-même. Et pour nous, les conséquences de la bonne nouvelle, de l'Évangile, de la résurrection de Jésus, n'ont pas encore fini de s'accomplir. N'ayant pas traversé nous-mêmes la mort, nous n'en réalisons pas encore tous les faits. Déjà pourtant, de même que Jésus est mort en pardonnant, sa résurrection par le Père est pardon de Dieu. Devant ces hommes qui tuent et qui tuent des innocents, et dans la mort de Jésus, Dieu lui-même s'identifie à eux, que va donc faire Dieu ? Décidément, pourrait penser Dieu, je le cite, « Il n'y a rien à faire avec ce monde et ces hommes. On efface tout et on recommence à zéro. » Or, ce n'est justement pas ce qui se passe. En fait, le Père redonne vie au Fils, mais en son humanité. Et ce point est absolument décisif. Si le Fils revenait à son Père en laissant à la mort son humanité, cela signifierait tout simplement que Dieu s'est définitivement détourné des hommes. Mais non, il se fait reconnaître comme vivant, certes, mais toujours lié à son humanité, à notre condition qu'il a assumée jusqu'au bout et qui est maintenant transfigurée. Pensez à ces récits de résurrection avec Thomas et les stigmates. Les témoins en tirent aussitôt les conséquences. Nous voilà sauvés. Dieu pardonne et nous aime envers et contre tout. Ce que la croix disait déjà est confirmé ici, l'abîme de l'amour de Dieu pour les hommes est plus profond encore que celui du péché, de la haine et du meurtre. C'est Barbara, cette jeune femme catéchumène de 36 ans qui témoigne, je la cite. « Depuis le début de mon cheminement, je me sens plus apaisée, plus joyeuse. La lecture de la parole me fait prendre conscience de ce que je faisais de mal. Elle me permet de mieux connaître Jésus-Christ. Et ma foi en Christ éclaire ma vie d'aujourd'hui parce qu'elle lui donne un autre sens. C'est une vraie résurrection. Avant, j'étais nerveuse. Je réglais mes problèmes par les disputes et la violence. Depuis que j'ai frappé à la porte de Dieu, je suis différente. La noirceur des pensées et des désirs anciens disparaît peu à peu. J'arrive à contrôler ma nervosité. Je n'ai plus peur. Et même avant de faire quelque chose, je réfléchis et je demande à Dieu de m'aider à faire le bon choix. » Fin de citation. Aussi comme pour Barbara, les peurs commencent-elles à tomber pour les disciples. Et définitivement, quand est envoyé l'esprit de Pentecôte, le souffle de Dieu et de son Fils qui transforme les cœurs. Simultanément, la résurrection ouvre le temps au lieu d'arrêter le temps. Elle l'ouvre jusqu'au retour dernier du Christ, pour que notre liberté relevée ait le temps et l'espace de correspondre au don que Dieu fait de guérir et de reconstruire. Elle ouvre le temps, jusqu'à ce que dans le monde renouvelé, Dieu soit tout en tous, dans une humanité accomplie et réconciliée. Dans la première lettre de Saint Jean que j'aime beaucoup, au chapitre 3, Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort dans la vie, souvenez-vous de ce qu'a dit le père François Bousquet, puisque nous aimons nos frères. Qui n'aime pas demeure dans la mort. Il ne faut pas lâcher cette double caractéristique de la bonne nouvelle. Il est vivant, ce Jésus qui fait corps jusqu'au bout avec notre humanité, et sa Pâque est la nôtre. C'est bien ce qu'ont réalisé Pierre et Jean courant au tombeau vide. S'il est vivant, tout est changé. Et c'est inouï. La manière d'être homme qui était la sienne, devant les hommes et devant Dieu, mène à la vie et nous libère, nous rendant à notre humanité vraie. Alors chaque fois que nous travaillerons pour la vie et pour une vie plus humaine, non sans épreuve, et malgré des échecs, nous marcherons sur les pas du ressuscité. Mais c'est aussi une Pâque, un passage. Alors même que nous devons tendre à faire des lieux où nous vivons une demeure habitable, où il fait bon être ensemble, ce n'est pas pour nous y enfermer et jouir de quelques réussites ou privilèges, en ignorant ceux pour qui l'avenir est bouché. Quelque chose de l'ouverture, de la mise en route vers le large, qu'est la Pâque, doit s'inscrire visiblement dans notre effort pour que ces lieux où nous travaillons ne soient pas marqués par une compétition individualiste généralisée, mais soient ouvertes à tous. La résurrection du Christ ne prescrit pas des solutions toutes faites, à nos problèmes, indépendamment de la réflexion et de l'analyse patiente de ce dont nos vies sont remplies dans un monde devenu tellement complexe. En revanche, la résurrection du Christ donne du souffle. C'est même le souffle, l'esprit de Pentecôte, pour s'atteler ensemble à rendre comme carrossable quelques chemins, renverser quelques murs, bâtir quelques ponts et, si possible, dégager un peu l'horizon. Mon troisième et dernier point, je l'ai intitulé « Il est vivant, il est Seigneur, il nous appelle à vivre ». La nouveauté de la résurrection se dévoile aussi dans la manière qu'ont les Écritures de se refuser à décrire cette résurrection comme un phénomène sur lequel on aurait mis la main, dont on pourrait faire le tour. Les apôtres n'ont pas été témoins de la résurrection, ils ont été témoins du ressuscité. Elles montrent plutôt les effets résurrectifs, en quelque sorte, de ce qui ne peut être qu'attribué à l'inouï même de la résurrection du crucifié. Sans entrer dans de savantes considérations d'exégèse, on peut rester frappé de la différence d'approche des apôtres et des évangélistes quand il s'agit de prêcher le ressuscité. Par exemple, l'évangile de Matthieu, qui s'adresse à des hommes de culture juive, son langage à propos de la croix et de Pâques utilise les codes juifs, en l'occurrence les codes apocalyptiques, la terre tremble et s'ouvre, les morts ressuscitent. Et n'importe quel juif comprend et pourtant il est surpris. Il comprend qu'à travers ces événements, c'est la fin du temps qui advient dans le temps. Il est surpris car c'est l'inouï qui surgit et les cieux s'ouvrent. Mais si nous regardons à présent la prédication de Paul à Athènes, les actes des apôtres parlent grec à des Grecs, et c'est pourtant autrement que le ressuscité va leur être prêché. Mais ceux qui y comprennent sont surpris. Voilà que la bonne nouvelle bouleverse leur catégorie. D'abord, le Dieu cherché à tâtons, jusque-là, n'est pas vague. Il s'atteint à travers le visage de Jésus. Il s'intéresse à eux. Et puis la résurrection fait craquer de toutes parts les représentations en usage, comme celle que j'évoquais tout à l'heure de l'immortalité de l'âme. Elle concerne les corps, elle concerne l'histoire, elle concerne le monde. Il n'est pas besoin d'insister. Aujourd'hui encore, la plénitude de ce qu'implique pour nous la résurrection n'a pas fini d'être expérimentée dans la diversité de nos situations, dans la diversité de nos vies. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va nous rendre capables d'exister autrement dans ce que nous aurons compris de notre existence. Précisément, avec cette différence qui est celle de l'Esprit du Christ et de son Père, le Dieu vivant, cet autre souffle. Je crois qu'il faut le répéter, la bonne nouvelle du salut pour tous en Jésus-Christ se déploie à partir de la résurrection. Et on peut résumer en trois expressions. Jésus est ressuscité, c'est-à-dire il est vivant. Deuxièmement, il est le Seigneur. Et troisièmement, il nous appelle à vivre. Il est vivant. Donc le péché qui peut mener à blesser la vie, à tuer le corps, n'a pas le dernier mot. Si Dieu, son Père, a ressuscité Jésus, qui a été crucifié et qui était mort, c'est qu'il lui donne raison d'avoir vécu et affronté la mort comme il l'a fait. On pensait que le mal avait gagné. Les disciples eux-mêmes ont vécu la mort de Jésus comme un échec, comme la destruction aussi de leur espérance. Pensez aux disciples d'Emmaüs, au chapitre 24 de Saint Luc. Dieu voit autrement et il établit une nouvelle création. Et si la manière qu'a eu Jésus de vivre et de mourir était la bonne, le chemin qu'il a pris est donc le bon. Il assure bien le passage de cette vie vers la vie nouvelle, la vie éternelle. Toute peur doit et peut tomber, en particulier quant à l'avenir, au moment où nous traversons l'épreuve. Si Jésus est vivant, avec lui, nous vivrons. S'évoquer, il est vivant, il est le Seigneur. Jusqu'à la résurrection, le fait que Jésus, un homme comme nous, soit le Fils de Dieu, pouvait rester comme caché. Après la résurrection, cela apparaît clairement aux croyants et c'est plein de conséquences. Si Jésus ressuscité vivant est auprès de son Père, ce que l'on fête par exemple le jour de l'Ascension, c'est le signe que le grand désir de Dieu arrive enfin à s'accomplir. Il est vivant, il est le Seigneur, il nous appelle à vivre. Comme le disait un jeune, j'aime bien son attestation, je le cite, « Si Jésus est venu chez nous, c'est pour que nous allions chez lui. » C'est tout simple. Parce que Jésus est bien un homme, le premier d'entre nous, voilà que l'avenir de chacun et de toute l'humanité, pas seulement les croyants, est attendu en Dieu et s'accomplira en Dieu. Nous savons que Dieu est concerné en lui-même par tout ce qui nous arrive. Voilà qui change notre manière de voir. De même qu'il fallait apprendre à voir le Fils de Dieu parmi nous en Jésus durant sa vie, de même maintenant, tous les jours jusqu'à la fin des temps, il faut apprendre à voir en tout homme Dieu qui vient à notre rencontre. Combien ça transforme notre regard sur les autres. Pensez à ce beau passage intitulé « Faussement le jugement dernier » dans le chapitre 25 de Matthieu. De même, il faut apprendre à voir ce qui n'est pas encore visible. Dans celui qui nous agresse, nous pouvons voir celui qui peut devenir meilleur. Dans le tout petit, celui qui va grandir. Dans le vieillard, celui pour qui l'avenir n'est pas terminé. Dans la personne handicapée, celle qui peut avoir sa vie comme tout le monde. Dans l'exclu, celui qui a droit à sa place dans la communauté des hommes. En nous-mêmes, celui que Dieu appelle à un horizon toujours plus large, à une fraternité et un don de soi toujours plus ouvert. Jésus est Seigneur, parce qu'il est ressuscité, nous recevons de pouvoir vivre selon cet esprit d'amour qu'il partage avec son Père et qui multiplie la vie. Dans le troisième moment que nous allons donner à à deux voix, nous tâcherons de répondre à cette question, ou du moins à donner quelques jalons. Qu'est-ce que ça change de croire au ressuscité? Mais nous allons entendre maintenant Mors et Resurrectio, trois paraphrases grégoriennes qui datent de 1933 d'un compositeur, d'un organiste bien connu qui s'appelait Jean Langlais. troisième et dernier moment, croire au ressuscité, qu'est-ce que ça change ? Tenter de répondre à la question « qu'est-ce que ça change ?», c'est toujours instructif et fécond. Nous essayerons, même s'il y aurait beaucoup à dire, de décrire ce que l'on pourrait appeler les effets de Pâques. Plusieurs aspects demandent d'être un peu explicités, mais il faut remarquer qu'ils sont liés et qu'ils sont tous rapportés à ce même centre, l'irruption du monde nouveau de la résurrection et prémices du monde à venir. Dans un premier moment, intitulé « Où la vie commence à reprendre sens », nous n'arrivons pas toujours à sortir du cercle angoissant où nous répétons sans fin « Le mal est absurde, il n'a pas de sens, alors pourquoi le mal ? Pourquoi le mal s'il n'a pas de sens ?» Question sans fin. Voilà que grâce au ressuscité, il est possible de sortir de ce cercle angoissant et de continuer à faire changer de sens ce monde où le mal est absurde. Grâce à lui, le monde est remis à l'endroit et la vie reprend son sens. Le mal était un mur, il y a maintenant une brèche. Elle doit s'élargir. Nous le ferons en nous attaquant d'abord au mal que nous commettons ou qui nous échappe, puis au mal que tous ensemble nous n'avons pas encore réussi à maîtriser. Si c'est grâce à Jésus que cela est rendu possible, il faut voir comment nous pouvons nous mettre à sa suite et vivre comme il a vécu. Paul Claudel, imitant dans l'un de ses écrits la parole de Jésus dans l'Évangile, écrivait « Je ne suis rien venu abolir, mais tout accomplir ». Il lui fait dire « Je ne suis rien venu résoudre, mais tout remplir ». Ce qui est vrai, si l'on comprend bien cette expression « Je ne suis rien venu résoudre », elle ne signifie pas que Jésus n'est rien venu changer, mais que ces changements, il ne les fera pas sans notre liberté réelle, ni notre capacité de transformer la vie telle qu'elle est. Alexandre, qui sera aussi baptisé, me l'a partagé avec force. Je lui laisse la parole. Quittant petit à petit cette carapace que la vie m'avait imposée, je décidai de laisser entrer dans ma vie les paroles de l'Évangile. Je laissai alors la lumière pénétrer dans cet endroit qui me fait tant souffrir et l'espoir faire battre ce cœur à nouveau. Ainsi, je décidai d'accepter de vivre et de réagir différemment vis-à-vis des autres et de moi-même, d'accepter la vérité même si elle me faisait souffrir. Lâcher tout, arrêter de vouloir tout contrôler, s'abandonner dans la confiance pour l'avenir. Accepter d'être ce que je suis et de me voir changer. Accepter d'évoluer vers quelqu'un de nouveau. Traverser le grand désert de ma vie avec ces nouvelles personnes rencontrées, éclairées par les mêmes commandements donnés par ce berger qui est venu en notre monde accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. J'ai pris la décision de suivre le Christ, de lui faire confiance et d'être son disciple. Il est bon d'entendre la parole, j'allais dire, des nouvelles pousses dans la foi, des catéchumènes, des néophytes, des confirmants. Oui, comme l'exprime si bien Alexandre, c'est librement et volontairement que nous choisissons le bien, que nous choisissons la vie. Jésus ne nous laisse pas rêver que cela pourrait se faire magiquement. Le Christ n'est pas venu nous transporter dans l'illusion d'un monde où nous n'aurions plus à agir contre le mal. Il y a un combat, nous l'avons évoqué ensemble, il y a un travail. En revanche, il est venu tout remplir, ce qui signifie que rien ne pourra jamais nous séparer de lui, quoi qu'il nous arrive. Ce qui signifie qu'avec lui, j'allais dire à travers toutes les saisons de nos existences, les mauvaises comme les bonnes, notre espérance est fondée et solide, nous y reviendrons dimanche prochain. Cela signifie que l'absurde, clairement dénoncé comme absurde, en particulier la souffrance de l'innocent et l'injustice entre les hommes n'est pas destinée à durer toujours. Cela signifie que cet absurde finira par être renversé pour laisser venir à nous le monde nouveau qui déjà commence. Un monde où Dieu veut qu'avec lui et en lui, tous les hommes soient accomplis et heureux ensemble. Oui, avec la résurrection du crucifié, nous pouvons dire que nous avons maintenant une autre mémoire de l'avenir. C'est-à-dire que nous avons, dans la mémoire collective de l'humanité, de quoi envisager l'avenir autrement que comme la répétition des fatalités du mal. J'évoquais où la vie recommence à reprendre sens, un deuxième changement, c'est pardon, réconciliation et tomber des peurs. Il y a en effet un aspect de la résurrection qui est, à mon avis, pas suffisamment perçu, à savoir qu'elle est pardon. Je l'ai évoqué tout à l'heure de façon brève, la résurrection signifie et accomplit le pardon de Dieu. Et si Jésus meurt en pardonnant, sa résurrection aussi est pardon. C'est en se faisant reconnaître vivant au-delà de la mort, avec son humanité, qu'il signifie le pardon de Dieu. Le Père redonne vie au Fils, mais en son humanité, n'oubliez pas, et ce point est décisif. Si le Fils revenait à son Père en laissant à la mort son humanité, cela signifierait que Dieu s'est définitivement détourné des hommes. Au contraire, Jésus se fait reconnaître comme vivant, toujours lié à notre humanité, toujours lié à notre condition qu'il a assumée jusqu'au bout et qui est maintenant transfigurée. Les témoins en tirent aussitôt les conséquences. Nous voilà sauvés. Dieu pardonne et nous aime envers et contre tout. Ce que la croix disait déjà se confirme à la résurrection. L'abîme de l'amour de Dieu pour les hommes est plus profond encore que celui du péché, de la haine et du meurtre, je l'évoquais tout à l'heure. Même celui qui met à mort l'innocent, Dieu ne le détruit pas. Il préfère prendre sur lui pour qu'il vive. Trop souvent, on oublie que Jésus, ressuscitant avec son humanité, montre que Dieu tient plus à nous que nous ne tenons à notre péché. Il pardonne. L'Église qui se rassemble dans le repas du Seigneur, autour du ressuscité, comme nous l'avons fait ce matin, avant que chacun ne reparte vers le lieu où il vit, est une Église qui, de Pâques en Pentecôte, a mission jusqu'à la fin de signifier visiblement, de donner à voir concrètement l'anti-Babel, la réconciliation dans la diversité. Et pour un chrétien, travailler à la réconciliation, ce n'est pas une tâche périphérique. En vivant de l'esprit du ressuscité, nous savons qu'il y a une manière de gérer les conflits qui traversent notre vie commune, de telle sorte que la droiture et la vérité, une certaine non-violence fondamentale, permettent de rendre justice aux uns et aux autres. Nous en savons le coût payé de sa personne et nous en connaissons les conditions, une lucidité dans les analyses qui soit en même temps une compréhension généreuse. Ce qui frappe encore parmi les effets de Pâques sur les disciples, c'est la tombée des peurs. Nous voyons dans les évangiles les apôtres, les disciples, ne pas comprendre au début, chercher, se poser des questions. Ce sont des hommes et des femmes comme nous, les pieds sur terre. Nous ressemblons à Thomas ou à Marie-Madeleine, qui veulent toucher Jésus. Il faut remarquer la transformation qui est la leur. Quand ils réalisent enfin ce qui s'est passé, la peur disparaît. Ils sont joyeux, ils parlent et ils partent annoncer à tous la bonne nouvelle, j'allais dire, contre vents et marées. Troisième effet, troisième conséquence, je l'ai intitulé « Croiser l'amour de Dieu et l'amour des autres ». D'un côté, la mort de Jésus nous montre jusqu'où Dieu s'identifie à nous en son Fils. Désormais, on verra combien tout homme qui souffre, c'est Dieu fait homme qui souffre avec lui. Il n'y aura plus, jusqu'à la fin des temps, un seul être humain, et surtout innocent, qui soit persécuté, torturé ou mis à mort, sans que ce soit à Dieu lui-même que l'on touche, et sans que cet innocent soit habité même dans la souffrance et l'obscurité par Dieu lui-même. Donc on est là au cœur de la foi, au cœur du mystère pascal. Il n'y aura pas un seul malade sur son lit de douleur, pas un seul handicapé, pas une personne souffrant de dépression, de solitude ou de pauvreté, pas un peuple opprimé, pas un enfant mal aimé, qui ne doit savoir que Dieu est avec lui et en lui pour traverser l'épreuve. C'est proprement inimaginable, c'est totalement inouï. Et les mots ici ne servent pas à grand-chose. Ils tombent toujours un peu à côté. Celui qui a visité hôpitaux ou prisons, qui a tenu les mains de vieillards en train de mourir, qui a pleuré un matin avec les parents d'un garçon de 15 ans mort de leucémie, ou des parents qui m'ont raconté hier qu'ils ont découvert leur fille 24 ans, Anne-Louise, qui s'était donné la mort. Oui, chacun sait bien ce qui compte alors. Un silence où l'on se tient les coudes. Un silence où il faudra attendre un peu avant qu'une prière intense et une prière dépouillée ne monte aux lèvres. D'un côté, donc, nous voyons la profondeur avec laquelle Dieu fait corps avec nous dans la traversée de l'épreuve. Mais d'un autre côté, nous voyons aussi comment nous pouvons nous comporter comme êtres humains. En effet, que dit et que fait Jésus, en particulier en s'adressant à ceux qui le mettent à mort injustement ? Il ne cède pas. Il ramène chacun à sa responsabilité et aux exigences de l'amour de Dieu et des autres. Il prononce des paroles simples, droites, vraies. Mais surtout, à aucun moment, il n'en vient à haïr. À aucun moment, il n'entre à son tour dans la violence. Il y a deux paroles qui le montrent bien. L'une est adressée à un homme qui le frappe. « Si j'ai mal parlé, montre en quoi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Vous connaissez bien. Et une autre adressée à Dieu, son Père. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est d'abord par cette manière d'être face à ceux qui le frappent qu'est brisé le cercle du mal, le cercle du péché. L'amour qui vient de Dieu et qui est vécu par un homme est plus grand que l'injustice. Le pardon est plus grand que la haine. La force même d'accueillir, de supporter, de vouloir échanger avec l'autre est plus puissante que l'enfermement dans la haine et la violence. Le regard qui va au fond des choses et reste exigeant, sans jamais condamner, nous sauve de nos indignités. Faisons encore un autre pas. Les premiers chrétiens ont d'abord été repoussés par la croix, instrument de supplice. Il suffit de penser à l'impression que nous fait une photo de guillotine. Et voilà qu'au fil des générations, ils se sont arrêtés au signe de la croix avec sa verticale et son horizontale. Ils l'ont retenu parce qu'il indiquait bien en un même geste les deux dimensions inséparables du sacrifice du Christ. En parlant de sacrifice, on veut dire que Jésus fait de sa mort un acte où il prend sur lui une souffrance injuste pour que tous et ses bourreaux, eux aussi, puissent s'ouvrir à une autre manière de vivre et se faisant accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, ce n'est pas que Jésus meure, mais qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à risquer sa vie en ne répondant pas par la violence à ses bourreaux, ce qui est une manière de les respecter, de les aimer malgré tout, dans leur dignité d'enfant de Dieu. Le signe de la croix, c'est le signe de l'existence chrétienne, parce qu'il ne sépare pas l'amour de Dieu de l'amour des autres, la verticale de l'amour de Dieu de l'horizontale de l'amour des autres, représentée par les bras ouverts de la croix. Je laisse François évoquer en quelques mots ce que croire au ressuscité change dans notre compréhension du corps.
Deux points, en effet, sans trop tarder. Le premier, c'est ce que croire au ressuscité change effectivement dans notre compréhension du corps. Quand les chrétiens, dans leur profession de foi, proclament « nous croyons à la résurrection des morts » ou « nous croyons à la résurrection de la chair », ils affirment que les êtres humains que nous sommes sont promis à la transfiguration et à l'éternité. C'est corps et âme que nous sommes sauvés. Quand un homme de la Bible dit « chair », il veut dire « tout l'homme ». Et quand nous disons « corps », nous ne pouvons oublier combien nous sommes à la fois charnels et spirituels. Le corps, d'une part, nous relie, nous permet de communiquer, nous identifie, il nous distingue les uns des autres comme uniques. À partir de là, s'éclairent deux aspects de la résurrection qui nous est promise à la suite de Jésus-Christ. D'abord, notre vie présente ce que nous sommes tout entiers, hormis le péché ou nos manques d'amour, ressemble aux matériaux de la vie éternelle. Dès à présent, cette vie qui ne passera pas est déjà commencée. Bien sûr, il nous faut rester attentifs aux images que nous nous faisons du monde à venir. Quand on regarde une petite graine de rien du tout, nous ne pouvons réaliser ce qu'elle va produire. On la plante, elle germe, s'épanouit, fleurit et porte du fruit. Il y a une continuité entre la semence et la plante. Mais quand on regarde une graine inconnue dans le creux de sa main, on peine à imaginer la forme de la plante ou de l'arbre qui en sortira. Mais sans cette graine, rien ne saurait pousser. Chacun et chacune de nous, nous comptons personnellement aux yeux de Dieu. Nous sommes solidaires et uniques en même temps. Cela veut dire que tout homme reste lui-même et relié à tous dans le monde à venir, purifié de ce qui l'empêchait de vivre avec Dieu. Mais rien de ce qui a fait la joie profonde et les liens d'amour en nos vies ne saurait se perdre. Donc notre corps, notre condition charnelle, notre incarnation est promise au salut. De toute éternité, chacun d'entre nous a un nom personnel. Dieu nous connaît et il aime chacun, chacune en particulier. C'est la personnalité de chacun d'entre nous qui est promise à l'éternité. Là, nous serons aussi solidaires. Nous ne serons donc pas coupés de ce qui, aujourd'hui, nous rend solidaires. Voilà la communion des saints. Enfin, un dernier point. Ce que croire au ressuscité change dans notre approche de la vie trinitaire. La résurrection ne se limite pas à la fête de Pâques. En fait, la liturgie déploie le mystère célébré dans la grande séquence Pâques, Ascension, Pentecôte. Si elle nous fait célébrer successivement ces trois fêtes, c'est pour diffracter comme en un prisme la lumière unique et très intense de ce mystère en sa triple dimension trinitaire. La lumière du soleil pénètre dans le prisme et les couleurs de l'arc-en-ciel en ressortent. et nous vivons ainsi successivement les différentes facettes du mystère pascal. À Pâques, le Père ressuscite le Fils en lui rendant l'Esprit. La résurrection devient un mystère de filiation. Le Père rend l'Esprit au Fils et lui redonne la vie. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, à cause du Christ, nous sommes maintenant accueillis, adoptés dans la vie même de Dieu. C'est une nouvelle manière d'être fils et donc frère. L'ascension représente en quelque sorte l'autre bout ou l'aboutissement de la trajectoire qui commence à Noël. Tout est simple. Dieu veut partager sa vie avec nous et pour cela, il vient le premier partager notre existence pour que nous puissions partager la sienne. À Noël, il descend parmi nous. À l'ascension, il nous invite à le suivre chez lui. À Noël, la divinité se cache dans l'humanité de cet enfant fragile. À l'ascension, c'est l'humanité de Jésus qui est cachée à nos yeux. Mais avec la sienne, la nôtre aussi est cachée en Dieu, attendue en promesse et invitée vers l'invisible. Désormais, toucher à l'homme, c'est toucher à Dieu. Toucher à Dieu, c'est toucher à l'homme. Pâques, Ascension, à la Pentecôte, l'Esprit du Père et du Fils est répandu sur toute chair comme puissance de résurrection. Ainsi, pour un chrétien, vivre Pâques signifie vivre la résurrection, l'Ascension et la Pentecôte. Cela veut dire partager le souffle de Dieu et l'espérance promise aux hommes d'aujourd'hui. À quoi sert d'être chrétien, sinon à vivre de l'Esprit, amour partagé entre le Père et le Fils, à prendre part à l'espérance des hommes en ce Dieu capable de transformer l'humanité.
C'était les conférences de Carême 2022, enregistrées à la cathédrale de Pontoise. Prise de son, montage et réalisation, diocèse de Pontoise. Retrouvez toutes les conférences de Carême du diocèse de Pontoise sur votre plateforme de podcast favorite ou sur le site internet du diocèse de Pontoise, catholique95.fr.